Ben bonjour à ceux que j'ai pas vus. Bienvenue si vous êtes là pour la première fois. Et comme la semaine dernière, nous resterons dans l'épître aux Philippiens. Bien. Il y en a qui suivent. Bien. Épître aux Philippiens, version seconde 1910, comme d'habitude, pour moi en tout cas. Et chapitre 2, verset 18. Philippiens 2, verset 18. Au chapitre 3, verset 1. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt chez vous. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. J'ai donc envoyé avec d'autant plus empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour cela est salutaire. Et une deuxième lecture dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, Exode 17. Exode 17, versets 8 à 13. Ancien Testament, Exode 17, 8, 13. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. » Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Jusqu'ici, les lectures pour ce matin, il y aura encore quelques petits passages que je citerai en cours de route. Je vous invite à la prière. Père éternel, encore merci pour cette Bible qui a traversé des siècles, 2000 ans de temps et autant d'années pour l'écrire. Seigneur, te demandons vraiment de nous bénir, de sortir de ce texte ton message, parce que c'est ta parole, c'est toi qui parles pour nous. Seigneur, que je ne sois qu'un simple haut-parleur, comme j'aime le rappeler, mais que ce soit aussi le message pour moi. Mais qu'à toi revienne surtout toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Je nous disais la semaine dernière que l'épître aux Philippiens portait bien son nom, qu'elle était donnée épître de la joie. Et encore, aujourd'hui, vous en avez encore un exemple. Et j'ai volontairement lu le premier et le dernier verset qui parle de se réjouir. Je vous rappelle toujours que Paul est en prison quand il écrit cette épître aux Philippiens. Et pour info, il y a, selon un commentateur, voilà ce qu'il nous dit, on a toujours réuni sous le terme de lettre de captivité, donc lettre qui a été écrite en prison, les quatre épîtres suivantes, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon, et Paul les a écrites étant en prison, que ce soit à Éphèse, en 56, ou à Césarée en 58-60, ou à Rome 60-62 après Jésus-Christ, évidemment. Ou à Rome, il était en semi-liberté. Je parlerai donc un peu plus tard de la situation géographique qui aura quand même une importance sur la compréhension de notre texte. Mais revenons à notre épître de la joie. Nous remarquons dans la lecture de notre texte que la joie de Paul a été assombrie. Assombrie par la maladie d'Épaphrodite. Verset 27, il a été malade. En effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Tristesse sur tristesse. Une seule fois utilisé, Paul n'utilisera le mot tristesse que 7 fois dans ses écrits, une fois dans l'Épître aux Romains, 6 fois dans la deuxième Épître aux Corinthiens, mais jamais pour parler de sa propre tristesse. Par contre, ici, dans notre texte, il utilisera l'expression tristesse sur tristesse, qui montre vraiment la profondeur de sa peine, la douleur qu'il subit. Paul, tout apôtre qu'il est, a besoin d'encouragement. Il aimerait envoyer Timothée, mais pour avoir des nouvelles de l'église de Philippe, ce même Timothée a d'ailleurs été éprouvé en entrant dans le ministère en compagnie de Paul, qui le dit lui-même. Être encouragé est nécessaire. Et pour un serviteur de Dieu, être encouragé est primordial. Or, même si l'on est conscient que l'on travaille pour un grand Seigneur, formidable, le retour, le soutien, le partage avec la communauté est essentiel. Nous lisons notre verset. Ça fait 2 mois que j'essaie de vous le coller à la peau, qui colle à la mienne. Philippiens 2,15, « Afin que vous soyez irréprochables, sans reproche et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lequel vous brillez comme des flambeaux dans le monde ou des lumières, portant la parole de vie. » Et chaque fois, je me suis arrêté là. Dans le verset continue, « Et je pourrais, c'est Paul qui parle, me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travailler en vain. » Il se dit lui-même, porter la parole de Dieu pour que je n'ai pas travaillé en vain. Être encouragé par la finalité de l'Église, par l'attitude de maturité des paroissiens, par les fruits visibles, par la clarté des flambeaux dans le monde pervers et corrompu. C'est nécessaire. C'est de cela que Paul a besoin. Il a besoin d'être encouragé. Et personnellement, je m'associerai à lui. J'ai besoin d'être encouragé. Que tout prédicateur, Daniel, Henri, Victor, Michel, tout le monde a besoin d'être encouragé. Vous aussi, personnellement, vous avez besoin d'être encouragé. Tout ministère doit avoir un retour, doit savoir que son travail n'est pas vain dans le Seigneur, même si parfois on a l'impression de prêcher dans le désert. Je disais toujours, quand on parle à des petits-enfants, il en a un petit répondant. À des jeunes, on a un répondant. À des adultes, on a un répondant. Mais parfois, chez les ados, rien. On a l'impression de parler dans le désert. Et puis, c'est seulement après, quelques années après, qu'on retrouve des ados, qu'on a eu dans ce temps, et qu'on est heureux de voir qu'on a un retour. Mais bon, ça arrive. Parfois, on a à la sortie du culte. C'était un bon culte. Je suis persuadé qu'on lit aussi la page de Blény. De temps en temps, ce serait bien d'encourager Achille. C'est bien ce qui a été dit, ce qui a été fait. Nous encourager. On a besoin de ça. Nous avons besoin, tous comme Paul, d'encouragement, d'être soutenus. Un peu comme Moïse, face à la guerre entre Israël et Amalek. Et Paul est dans la même situation. Il est découragé. Il a une guerre à faire, une guerre spirituelle certainement. Et dans le cas de Moïse et Aaron et Hur, pour soutenir ses bras, pour gagner la bataille, ils les soutenaient l'un et l'autre, comme ça, on en parlait justement à la réunion de prière, se soutenir l'un l'autre. Et Paul, lui, il avait Timothée et Épaphrodite. Mais tous deux ont été abîmés. L'un par l'épreuve de la foi et l'autre dans sa santé. Ils ont été abîmés. Paul, pourtant, en a vraiment besoin. Ce sont de précieux soutiens dans sa condition où il se trouve. Je vous répète, il est en prison ou en semi-liberté, suivant qu'il se trouve à Rome. Et voilà ce qu'il dit au verset 23 que nous avons lu. « J'espère donc vous envoyer Timothée dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. » Il sait dans l'état où il est. Il a besoin de soutien. Paul n'est pas bien. Et personne ne partage ce sentiment. Vous lisez le verset 20. Les autres qui l'entourent cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ. Verset 21. Il est en prison, semi-liberté, aussi on considère qu'il est à Rome. Il se sent seul. Et il voudrait garder Timothée près de lui, mais il se sentira obligé d'un peu lâcher et obligé de renvoyer Épaphrodite avec cette lettre aux Philippiens. Il va, retourne. Nous comprenons mieux peut-être cette expression dans la bouche de Paul, tristesse sur tristesse. Bien qu'il nous encourage, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous. Mais si on s'arrête un peu sur cet homme nommé Épaphrodite, on n'en parle pas beaucoup, juste là. Son nom signifie avenant ou aimable. Il y a des gens que j'ai connus qui s'appelaient aimable. Et si son nom se rapporte à cette qualité, il est évident qu'il devait être une aide précieuse pour Paul, qui lui donnera les qualificatifs de frère, sous-entendu dans la foi, de compagnon d'œuvre et de combat. Et il fut envoyé ou mandaté pour subvenir aux besoins de Paul, de l'apôtre. Épaphrodite est un chrétien de l'église de Philippe, qui est une des premières villes de Macédoine où Paul annonça l'évangile à la maison de Lydie, acte 16, vous allez vérifier. Et c'est là aussi qu'il fut emprisonné avec Silas et qu'il fut divinement libéré de la prison. Et c'est de cette fameuse église de Philippe qu'Épaphrodite est envoyé pour les besoins de Paul, qui est emprisonné soit à Césarée, mais probablement à Rome. Vous imaginez une carte, vous avez prévu une carte, mais elle n'est pas passée dans le programme. Vous imaginez la carte, Césarée est ici, là, avec Jérusalem, toute la Méditerranée, là au-dessus Philippe, et là-bas c'est Rome, c'est l'Italie. Donc on est dans le fond de la Méditerranée avec la Grèce. Ça va ? Donc imaginez Césarée, Philippe, Rome. Et entre deux, il y a la mer. Ah ben. Et nous situons Césarée. Voilà, j'ai expliqué voilà, tout ce qui est. Et à l'opposé, et entre Césarée et Rome, on a entre les deux 2300 km. Pas rien, hein. Donc, à Rolboison, évidemment, hein, ou en avion maintenant. Mais à l'époque. Donc, Épaphrodite a dû parcourir pas mal de kilomètres pour apporter à Paul ce que l'Église voulait lui faire parvenir pour pouvoir à ses besoins. Et Paul déclare qu'il a tout reçu et qu'il est même dans l'abondance. Ça, vous irez voir vous-même. À vous de vérifier ce que je dis. Donc Épaphrodite, homme aimable, homme de confiance, homme d'œuvre et de combat, et de grand soutien pour Paul, verset 30 que nous avons lu, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Épaphrodite a suppléé à l'absence de l'Église. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur que de dire que Paul souffre aussi de l'absence de la communion. Il est là-bas, tout seul. Il n'y a personne qui l'entoure. Aucun intérêt pour Jésus, pour ceux qui sont à côté de lui. Il est isolé par l'emprisonnement. Épaphrodite est donc indispensable au ministère de Paul. Indispensable. Et je me souviens d'un petit témoignage d'un pasteur qui assistait à l'enterrement d'une petite dame. Et le pasteur pleurait. Il pleurait à chaudes larmes, quoi. Et alors, le paroissien dit, « Mais pasteur, pourquoi est-ce que vous pleurez? C'est une petite dame, elle venait s'asseoir là, sur la chaise, elle faisait rien. Dieu, j'ai perdu mon plus grand soutien, parce qu'effectivement, pendant qu'elle était là, assise, à rien faire, elle priait tout le temps que je prêchais. Et là, j'ai perdu mon plus grand soutien. » Je pense qu'on a tous besoin de soutien, d'encouragement, mais Épaphrodite, il va tomber malade. Malade, et sa maladie vient aux oreilles des Philippiens, pardon, de son église, ce qui va augmenter la tristesse de Paul, qui n'a qu'une idée, écoute, retourne. Nous pourrions nous poser la question de la maladie. Pourquoi ? Pourquoi la maladie ? Pourquoi Épaphrodite ? Pourquoi lui ? Il est aimable, il est gentil, il est utile. Pourquoi ? Pourquoi est-il tombé malade ? Et dans la Bible, et particulièrement l'Ancien Testament, Nombreux sont les exemples de maladies liées au péché. Et hélas, parfois encore aujourd'hui, certains mettent l'idée que les deux vont de pair. Il y a certaines personnes qui disent « Ah, si t'es malade, c'est que t'as péché. Il faut prier. » Ton péché connu ou pas connu, ça peut appeler. Ou encore, on pourrait se poser la question « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ?» Il est vrai que Dieu punit parfois. Et la lèpre, dans l'Ancien Testament, était parfois une grande épreuve. Mais il y a quand même d'autres exemples, comme Job, dans le Nouveau Testament, où Jésus guérit un aveugle de naissance sans pour cela être une cause du péché. Il n'a rien fait. Et je vous lis quand même ce texte dans Jean 9, 1, 3, ce témoignage. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. De naissance, hein. Donc, ses disciples lui firent cette réflexion. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « C'est pas que lui ou ses parents aient péché, ni l'un ni l'autre. C'est juste afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jésus va guérir cet aveugle. Ce n'est que pour la gloire de Dieu. Rien à voir avec le péché. Remarquez quand même que c'est les disciples qui posent la question. On pourrait se demander d'où leur viennent leurs pensées ou quel enseignement ils ont connu avant de connaître Jésus. On peut toujours en discuter. Pour Epaphrodite, que pourrions-nous penser ou poser comme question ? A-t-il péché ou a-t-il été malade pour la gloire de Dieu ? S'il a péché, nous ne le savons pas. Mais le rapport du récit de sa vie nous étonnerait fortement si c'était le cas. Pour la gloire de Dieu, il ne nous est rien rapporté d'une guérison divine extraordinaire. Y aurait-il peut-être une troisième cause de maladie à votre avis ? Peut-être. Peut-être. Pourtant, il nous a dit que c'est une maladie grave. Selon le texte en français, il était près de la mort. Ça devait être important puisque Paul l'écrit deux fois, verset 27, verset 30. On n'a pas de détails sur cette maladie qui a rendu Paul si triste et fait tracasser les Philippiens. Nous n'en savons pas davantage comment ces Philippiens ont appris la nouvelle. Mais la lettre qu'Épaphrodite rapportera à l'église de Philippe les consolera et de sa part de voir la bonne santé de celui-ci, de recevoir des nouvelles affectives et correctives de l'apôtre, fut l'instigateur de la communauté, ça a encouragé. Et c'est justement dans cette lettre qui nous est parvenue et que nous partageons maintenant que nous pouvons discerner ou imaginer. Quand on n'a pas, on imagine un peu ce qui s'est passé avec Epaphrodite. Il part de Philippe. Voilà. Et soit il va à Césarée, mais probablement qu'il va à Rome, et de l'autre côté. Plus ou moins 1000 kilomètres. C'est certain que c'est un long voyage pour l'époque. Et pour répondre aux besoins de Paul, il a probablement forcé sa cadence pour faire sa livraison dans un délai raisonnable en pensant ben, « C'est pour l'œuvre de Christ, c'est pour le Seigneur, je dois y arriver coûte que coûte. » C'est sans compter que nous sommes des êtres humains. On n'est pas des Superman et que le corps humain a ses limites. L'expression « près de la mort » où il a failli mourir traduit davantage plus de « ayant joué avec sa vie » et de prendre des risques. Il s'est montré hardi. Ça, c'est l'un des pensées grecques. On pourrait en déduire qu'il a trop tiré sur la corde. Il s'est cru Superman, on va y aller, on y va à fond, on y va, on y va, on y va, et là, burn-out. Il serait arrivé complètement épuisé. Vous allez me dire, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas parole de Dieu, c'est une déduction. Mais nous n'avons pas plus d'informations sur sa guérison non plus. Seulement, il était malade, mais Dieu a eu pitié de lui. Et le livre des Actes nous rapporte quand même que Paul était guérisseur. Il a guéri à plusieurs reprises, mais pas Épaphrodite, il ne nous a rien dit. D'ailleurs, Paul, à un certain moment, parle aussi d'un autre malade. « J'ai laissé ton fils malade à Milet. » Paul n'a pas toujours guéri. Il était malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'use pas tristesse sur tristesse. Cette maladie n'est pour autant pas à mettre sur le dos de Satan ou du péché, mais je pense tout simplement dû à un excès de zèle, un excès de fatigue naturelle qui se guérit naturellement par du repos et de la sagesse. Mais en toute chose, c'est surtout en donner la gloire à Dieu, seul créateur de notre créature humaine. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait, mais c'est lui qui peut nous donner du repos. Daniel l'a bien exprimé, prendre du repos en Christ, en Jésus. Paul aurait voulu garder Epaphrodite près de lui, mais pour diminuer l'inquiétude des Philippiens et sa tristesse, il le renvoie avec empressement, avec recommandation de le recevoir dans la joie. C'est-à-dire de ne pas lui faire de reproches sur son attitude et de l'honorer, c'est-à-dire de le considérer au-dessus des autres, dans l'humilité, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Et pour conclure, j'aimerais tirer quatre conclusions. L'Église, quelle qu'elle soit, doit se réjouir, même si des événements viennent perturber son bon fonctionnement. L'Église, quelle qu'elle soit, doit être attentive à encourager et soutenir toute œuvre, tout ministère, toute initiative engagée au nom du Christ. Troisièmement, il nous faut faire attention aux excès de zèle, même exécutés au nom de Jésus, au nom du Seigneur. Et surtout, ne pas juger une maladie comme étant d'une cause extrême. Gardons toujours en pensée que ce que Paul a écrit et veut partager avec les Philippiens, c'est aussi pour nous. Parce que ça a traversé 2000 ans, je pense qu'on doit faire un cas exceptionnel. Mais au reste, mes frères, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et Paul dira, je ne me lasse point de vous écrire une même chose, et que ce soit à votre salut. Et pour reprendre le verset que Daniel a lu tantôt, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci parce que tu es le Tout-Puissant, tu es notre Créateur, et nous sommes tes créatures, tu nous aimes. Il est vrai que nous ne comprenons pas toujours les maladies, mais nous voulons remettre à toi tout ce qui se passe, nous remettre entre tes mains. Et surtout, quelle que soit la guérison, si ce n'est que du repos et de la sagesse, nous voulons te rendre gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Avant de partager le repas du Seigneur, je vous invite à chanter ce chant « Je m'approche de toi ».